au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve François-Pierre Nizeri.
Chers auditeurs de Canal Académie, bonjour et bienvenue dans l'émission Au fil des pages pour parler aujourd'hui de Palestine. Palestine qui est un livre, je dois le dire, hors du commun. Un roman saisissant que nous évoquerons en compagnie de son auteur, qui est lui aussi hors du commun, Hubert Haddad. Hubert Haddad, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur Canal Académie. Cela dit, avant d'en venir à ce qui vous distingue du commun des mortels, et ce qui distingue Palestine du commun des livres, qui sont mortels eux aussi, même s'il existe des immortels, je voudrais évoquer le prix qui a récompensé votre livre, et qui lui aussi se distingue du commun des prix littéraires. Ce prix, c'est le prix des cinq continents. Mais je précise également que ce n'est pas le seul prix que vous ayez reçu cette année, puisque vous avez également été lauréat du prix Louis Barthoux, décerné par l'Académie française, et vous avez également reçu une mention au prix du roman arabe, qui est le premier du genre, je crois, qui est patronné par l'Institut du monde arabe et les ambassadeurs de l'ensemble des pays arabes. C'était important de mentionner également cela. Mais revenons au prix des cinq continents. Alors, le prix des cinq continents est un prix, comme chacun le sait, qui a été créé en 2001 par l'Organisation internationale de la francophonie, qui est décerné depuis tous les ans par un jury composé de 12 écrivains représentatifs de différents territoires de la francophonie. C'est un prix qui s'attache, à l'écart un peu de la marée des prix littéraires traditionnels, qui s'attache, et on a bien besoin, à promouvoir une littérature d'expression française dans le monde entier, et qui ne soit pas simplement une galaxie tournant autour d'un centre. Quand je dis centre, j'évoque un petit peu Paris, peut-être. Qui ne soit donc pas une galaxie tournant autour d'un centre, mais qui cherche sa vitalité dans la pluralité. Et la pluralité étant, comme chacun sait, indissociable de l'égalité, le prix est ouvert, en principe, à tout écrivain d'expression française des cinq continents. Mais il ne faut pas cacher qu'il y a, malgré tout, sur ce sujet, un débat, et même un débat animé, que certains plaident pour une forme de discrimination positive en faveur des auteurs de pays moins favorisés, notamment sur le plan de l'édition et de la diffusion. Quelque chose d'a priori légitime, mais il reste à définir la relation entre un auteur et un pays. Ça n'est pas simple. Est-ce que c'est une nationalité? Est-ce que c'est une résidence? Est-ce que c'est une attache personnelle et familiale? Pas évident du tout. Alors, ce que je dois dire surtout, c'est que jusqu'à présent, j'ai l'impression que le bon sens a prévalu. Et le bon sens a prévalu en ce sens qu'il a cherché le prix, le jury, les organisateurs ont cherché à éviter, tout en leur donnant la place qu'ils méritent, d'enfermer les auteurs dans un statut privilégié qui risquerait paradoxalement de les marginaliser davantage et de favoriser en quelque sorte une espèce de promotion identitaire de la littérature au détriment, et ce serait dommage, de son contenu et surtout peut-être de la découverte de nouveaux talents. Cela dit, la composition du jury actuel du Prix des Cinq Continents permet, je crois, et on n'en doute pas, de dépasser ce clivage nord-sud, ça c'est clair. Le jury actuel est donc présidé par Lise Bissonnette, qui est la présidente et directrice générale de la Bibliothèque et des Archives nationales du Québec. Et il est composé de Monique Ilboudeau pour la Jacques, Vénus Kourigata, Pascal Kramer, Henri Lopez, Leïla Sebar, Denis Tillinac, Lionel Trouillot, ainsi que, je vais mentionner un petit peu à part, Jean-Marie Gustave Leclésio, prix Nobel de littérature, et René Dobaldia de l'Académie française. Alors en outre, chaque année, Le lauréat du prix de l'année précédente fait partie du jury, c'est en quelque sorte le 12e homme. Et vous avez donc, Hubert Haddad, le privilège de siéger dans le jury 2009 et de participer par conséquent au choix de votre successeur et même de l'accompagner à la remise du prix par le président de l'OIF en 2009. Et en 2008, c'est à Québec, le 13 octobre, en marge du 12e sommet de la francophonie, que le président Abdou Diouf vous l'a remis. Et j'ajoute, pour finir, que ce prix vous a été attribué après une sélection opérée dans un premier temps sur 78 candidats par des comités de lecture issus de différents territoires de la francophonie et puis sur les 10 finalistes restants par le jury lui-même. Voilà, comme ça, chacun sait un peu comment fonctionne. Ce prix des 5 continents. Alors maintenant, sauf si vous souhaitez éventuellement, sans attendre la suite, faire un commentaire particulier sur ce prix des 5 continents et ce que vous en ressentez. Je ne sais pas si vous souhaitez faire un petit commentaire, déjà.
Non, ce que je peux dire, c'est que l'intérêt, c'est vrai, c'est d'aller chercher partout où on écrit le français, le talent, où que ce soit, dans une île lointaine, dans une brousse, dans une... On écrit le français partout. Et aussi dans une capitale occidentale. Bien, oui, mais
pourquoi pas.
C'est les 5 continents, n'est-ce pas? Donc c'est ça l'intérêt, je trouve, de ce prix. C'est que, bon, c'est vrai que la littérature française, elle est un petit peu enfermée à Paris. Voilà, et donc beaucoup de choses se passent partout. Il y a de la richesse, pas seulement le roman d'ailleurs, la poésie, elle est très riche ici et là. Il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de passeurs. Peut-être que l'intérêt de ces prix, de ce type de prix, voilà, c'est de faire passer le beau message de la littérature à travers le monde, la littérature française.
Absolument. Et donc, bien, puisque vous êtes là pour ça, Hubert Haddad, on en vient maintenant à votre parcours et à ce livre qui vous a valu ce prix. Alors, en ce qui concerne, Hubert Haddad, vos racines culturelles, je n'irai pas jusqu'à vous qualifier de galaxie, puisque vous ne tournez manifestement pas autour d'un centre. Mais il est clair que vous portez en vous une pluralité d'identités qui est assez peu commune, finalement. Vous portez en vous, si je peux me permettre, la Méditerranée. La Méditerranée, dans ce qu'elle a de plus riche et de plus authentique.
Et la Méditerranée et aussi l'Occident, puisque j'ai vécu dans ce qui n'était pas un exil dramatique, quoique c'était dans les années 50, il y avait quand même là des paniques du monde judéo-berbère qui s'est replié sur différents pays d'ailleurs, hein, pas seulement Paris. Beaucoup sont partis aux États-Unis, d'autres en Israël, d'autres en Italie, au Québec. Et bon, moi j'ai vécu mon enfance à Ménilmontant.
Ça touche exactement ce que j'allais dire, puisque j'allais commencer par dire que vous étiez français, en référence un peu, en clin d'œil, à ce que j'ai dit précédemment sur le débat qui a lieu au niveau du prix des 5 continents. Mais vous êtes né d'un père tunisien, qui à l'époque était tailleur de pierre.
Oui.
Vous êtes né également d'une mère d'origine algérienne.
Né à Tunis, mais d'origine algérienne.
Voilà. Et vos racines judéo-berbères, sur lesquelles, je crois, vous insistez beaucoup, vous ont accompagné, en fait, tout au long de votre chemin.
Oui.
Je ne dis pas votre âge. Je ne dis volontairement pas votre âge, car nous avons exactement le même âge. Donc, ça veut dire que vous êtes un jeune écrivain.
Pardon.
Vous êtes un jeune écrivain dont, cependant, je dois dire, la bibliographie est déjà quand même très, très impressionnante, puisqu'elle contient environ, si j'ai bien compté, 55 titres.
Plus quelques autres sous pseudonymes, des livres pour enfants.
Des pseudonymes en plus qui ont alimenté, bien d'accord. Donc, vous avez écrit des romans, des récits, des nouvelles, des essais, des pièces de théâtre, des poèmes, bref, un petit peu tout le paysage des genres littéraires. Et je ne peux malheureusement pas, évidemment, citer tout les 55 titres et plus que vous avez écrits, mais je voudrais quand même en mentionner deux, qui sont d'ailleurs mentionnés dans le quatrième de couverture de votre livre. Je mentionnerai d'abord votre premier roman, Un rêve de glace, publié d'abord chez Albin Michel en 1974, déjà, et puis chez Zulma, votre éditeur actuel, en 2006.
Voilà, ça a été repris chez Zulma.
Voilà. Et d'autre part, Au Liba des songes,
des songes,
qui est paru chez La Table Ronde en 1989, et puis ensuite chez Zulma.
Réédité chez Zulma.
Et c'est intéressant de mentionner ce titre-là parce que c'est une fiction où plane déjà l'ombre, en quelque sorte, du conflit du Proche-Orient, ce qui nous amène en fait à parler directement maintenant de Palestine.
Au Liban des Songes, c'était après la guerre de 67.
D'accord.
Bien après, finalement. Mais bon, c'est la situation finalement dans le Liban a été à peu près la même. Mais le conflit, enfin, cette guerre, parfois déclarée, souvent larvée, vient à la fin de Oliba des Songes. Oliba, c'est Jérusalem dans Ézéchiel. Jérusalem comparée à une prostituée, la Jérusalem déchue. Et c'est un photographe de guerre qui va partout, sur tous les fronts. Sorti, lui, du front épouvantable de l'Europe de l'Est au moment de la destruction de la Shoah. Et à la recherche de la fracture, de la blessure, et il évite le Moyen-Orient, il évite Israël, la Palestine, jusqu'à la fin du livre, il ira pour se retrouver finalement.
D'accord.
Je disais ça parce que Palestine, d'une certaine manière, je m'en suis rendu compte à la réédition, commence où Oliba des Songes finit.
Ah d'accord, voilà. J'ai dit d'entrée de jeu que Palestine était un roman saisissant. Et j'insiste vraiment sur ce mot, car je crois que c'est un des rares romans dont le lecteur sort différent. Je l'ai ressenti. Et différent parce qu'on apprend à voir autrement, avec un autre imaginaire, avec d'autres sensations, avec une autre parole. Cette chose dont on entend parler presque tous les jours dans la presse et sur tous les écrans du monde entier, avec toute notre impuissance de spectateur lointain, avec toutes les questions sans réponse qui accompagnent, le conflit israélo-palestinien. Donc, Hubert Haddad, vous nous plongez en fait au cœur, et quand je dis au cœur, c'est au sens presque physique du terme, pas du tout au sens abstrait, au cœur de ce conflit qui n'est pas le seul dans le monde, mais peut-être celui qui remonte le plus loin dans le temps et qui est chargé de symboles qui, on a l'impression, qui concentrent un peu tous les déchirements du monde. De peuples qui sont si proches, géographiquement, mais pas seulement géographiquement, et qui sont pourtant irréconciliables, qui vivent en permanence sous de terribles menaces, mais qui sont vivants. Vivant une vie sur laquelle, Hubert Haddad, vous versez une goutte d'humain. Une goutte d'humain qui change notre regard. Vous nous faites toucher le réel, et même le pire du réel. Mais d'une façon telle, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas, que le pire semble suspendu par la langue du poète. Et quelle langue du poète ? Finalement, ne reste à terre, puisque le pire est suspendu, ne reste à terre que l'humain, l'amour. Et l'humain, l'amour, rendent le passage d'un camp à l'autre presque simple, presque évident. Un soldat israélien est assommé dans une embuscade. Sous le choc, il perd la mémoire. Il est recueilli par une famille palestinienne. Il devient palestinien. Je n'en dis pas plus parce qu'il ne faut pas dévoiler ce livre qu'il faut lire et relire. Et là, quand ce soldat israélien devient palestinien, c'est ce que vous dites dans la quatrième de couverture, c'est la traversée du miroir. Mais ça devient surtout pour votre lecteur, et je le dis très très fortement, c'est une incroyable cohabitation de l'enfer et du paradis. Mais un enfer, encore une fois, un enfer discret, présent. Bien sûr qu'il est présent, mais il est un peu en suspens. Moi j'appelle ça le miracle de la poésie. Cette poésie qui habite toutes les pages de ce roman, que je voudrais inviter tous les auditeurs de Canal Academy à lire et à relire. Alors, je vais vous poser une première question qui est quand même, de mon point de vue en tout cas, qui va de soi. Quand on ose s'immerger à ce point au cœur d'un conflit humain aussi lourd, peut-être le plus ancien aujourd'hui, le plus enraciné dans la chair de ses protagonistes, alors est-ce que ça ne signifie pas que l'on porte en soi, dans sa propre chair, par ses propres racines, un questionnement intérieur que seule l'écriture peut non pas libérer, mais porter?
Depuis la petite enfance, la guerre, je suis né l'année de la création de l'État d'Israël, c'est Ben Gurion qui sans doute a apporté ce nom pour ce pays. Israël aurait très bien pu s'appeler Palestine. La Palestine, c'est toute cette région-là. Et enfant, ma grand-mère, Baya Harar, d'Algérie, parlait de la Palestine, parce que pour elle, pour tous les Juifs d'autrefois, eh bien, c'est à la Palestine qu'ils rêvaient. L'an prochain à Jérusalem, oui, mais c'est la Palestine qui les faisait pleurer. La Palestine de l'époque ottomane, la Palestine qui remonte à Hérodote. Mais enfin, mes parents qui parlaient arabe, qui vivaient à la façon des Arabes, dans un environnement avec des amis arabes, et les Juifs et les Arabes étaient très proches, en communauté. Ils avaient la même cuisine, la même musique, les mêmes sensations, la même vie, les mêmes lieux, sauf ce conflit terrible. Et on a subi donc cette guerre de façon parfaitement irrationnelle. On ne nous expliquait rien. Il y avait simplement des slogans qui nous parvenaient à nous, enfants. Et on était comme tous les enfants, comme les enfants musulmans, comme les enfants pris dans cet conflit à travers le monde, eh bien, intoxiqués, complètement intoxiqués. Il m'a fallu tellement de temps pour sortir de ces clichés, pour enfin admettre, pour enfin travailler pour une paix juste. Je me souviens qu'en 1967, je suis allé à l'ambassade d'Israël parce que je pensais qu'Israël allait être anéanti dans les jours qui allaient suivre. Et je suis allé à l'ambassade pour défendre Israël, pour m'engager. Quelques jours après, la guerre était provisoirement terminée. Et c'est un travail sur soi pour comprendre la parfaite communauté qu'on a, juifs et arabes, palestiniens, musulmans, palestiniens, juifs. Je ne sais pas comment multiplier la formulation pour montrer l'identité cananéen, juif et musulman. On est le même peuple, on est les mêmes hommes, quoi qu'il en soit. Cette guerre qui nous déchire, ça m'a tellement bouleversé. Évidemment, moi, je n'ai pas vécu là-bas le conflit. J'ai refusé de m'impliquer. Tellement je vivais ces contradictions. J'ai un frère qui a vécu là-bas et qui en est mort, on peut dire. Il a vécu en Israël. Il a été à ses 18 ans, 16 ans, 17 ans, il est parti. Il était peintre, artiste peintre. Il a travaillé, il était enseignant aux Beaux-Arts un moment, quelques années. Puis il a tout abandonné. Il militait pour la paix là-bas, sur place. C'était très dur, beaucoup plus dur, peut-être encore à cette époque qu'aujourd'hui. Et bon, il y a la réalité qu'il vivait, la réalité politique, la réalité sociale. Il y a aussi sa vie personnelle qu'il faudrait prendre en compte. Mais le résultat, c'est qu'il a tout abandonné pour aller vivre dans une cabane. Cette cabane qui est décrite dans mon roman, justement, a vraiment existé. Il a vécu la dernière année de sa vie, dans les derniers mois de sa vie dans cette cabane, à Jérusalem-Est, au-delà. Et il vivait là, tranquillement, de rien. Il avait perdu la raison, au fond. Et il vivait de rien, seul. Et puis, il a fini par revenir à Paris. Où il a trouvé un endroit à Ménilmontant où nous étions enfants. Et il s'est suicidé. Bon, évidemment, je vis avec ce drame depuis 1979, à la date de son suicide. Dans ce livre, il y a l'altérité, il y a l'autre. Comment devient-on l'autre ? Moi, je deviens Michael. Je suis devenu Michael quand j'ai écrit ce livre. J'ai voulu comprendre ce qu'il a vécu. Et je deviens Michael, je deviens le Palestinien, je deviens l'homme exclu, celui qui se retrouve dans l'abandon suprême, dans l'irréalité, à force de combattre, à force d'affronter une réalité dont les contradictions sont tuantes.
Merci. Nous allons peut-être, si vous le voulez bien, faire une petite pause, comme il est de tradition dans ces émissions, et nous allons reprendre dans quelques instants.
Un jour dans l'histoire revient sur le sac du Palais d'été qui s'est déroulé en octobre 1860. Pourquoi le Palais d'été des empereurs a-t-il été pillé, saccagé, puis brûlé à l'issue d'une expédition militaire franco-anglaise ? Réponse en compagnie de l'historien Bernard Brisé sur Canal Academy, une émission en libre écoute et libre téléchargement.
Chers auditeurs de Canal Académie, nous reprenons maintenant cet entretien toujours aussi saisissant avec Hubert Haddad. Et puisque vous venez de nous parler de la transformation, de vous être mis dans la peau d'un personnage, en fait, et vous parliez de votre frère. Alors, la question vient naturellement. D'une façon générale, quand on écrit un roman, on se met dans la peau d'un personnage.
Bon. Tout à fait.
Et de
plusieurs personnages.
Voilà, voilà, de plusieurs. Mais enfin, peut-être qu'il y en a, mm-hmm. peut-être un qui est en particulier, mm-hmm. disons, le personnage dans lequel l'auteur se met encore plus dans sa peau. Mais ici, il y a un processus qui est inhabituel, qui est double, puisque vous vous mettez dans la peau d'un personnage qui lui-même se met dans la peau d'un autre personnage. Vous avez évoqué la traversée du miroir, mais là, c'est la traversée de deux miroirs.
Tout à fait.
Alors, est-ce que Hubert Haddad, vous vous sentez vous-même, après avoir écrit ce livre, transformé par cette double traversée ?
Écrire un livre, c'est une vraie traversée, c'est vrai, c'est une épreuve. Écrire un livre, c'est une aventure, c'est un voyage. Au bout du livre, surtout quand il a beaucoup, tant d'implications personnelles de tous ordres, eh bien, c'est affronté. En vérité, quand j'ai commencé ce livre, je ne savais pas jusqu'où j'irais, jusqu'où j'oserais aller. Et je suis allé, je ne le savais pas, je le savais intimement, secrètement, de manière subconsciente, je suis allé jusqu'à la limite ultime où, pour moi, une révélation s'est faite. Par ailleurs, la substitution de Nessim, de Cham en Nessim, Cham, c'est le soldat israélien blessé qui tombe dans un coma et qui est soigné par deux femmes, Falastine, c'est Palestine, évidemment. Palestine, cette jeune fille anorexique représente un petit peu la Palestine, mais c'est une jeune femme qui vit avec sa mère aveugle, Asmaan, et qui recueille ce charme qui va se réveiller là, parmi des gens qui l'aident. Ces femmes pensaient que c'est un Palestinien. Parce que lorsqu'on a fait le transfert, on l'a habillé comme un Palestinien avec le kéfier, et il n'y a aucune différence entre un Israélien et un Palestinien, a priori, les Juifs arabes et les Palestiniens sont pareils. En plus, on parle arabe en Israël, on parle l'hébreu en Cisjordanie. 80% de la population parle hébreu en Cisjordanie. Donc il y a une vraie identité, une identité que j'ai voulu affronter pour montrer que nous sommes semblables. Ces gens-là sont faits pour vivre ensemble, pour partager l'aventure de vivre. Et mon personnage se transforme en Nessim. Qui est Nessim ? C'est le frère perdu de Falastine. Elle avait un frère qui est mort, qui est en prison, on ne sait pas, il a disparu. Et il y a là ses papiers d'identité, ses habits. Il va endosser les habits du frère disparu. Et il va devenir Nessim et il va vivre à travers cette famille d'adoption, il va vivre le quotidien de Palestiniens d'Hébron, avec le comportement impossible, intolérable de colons fanatiques et d'une armée qui a pris définitivement le parti des colons dans un contexte de répression, et dans un contexte de misère, dans un contexte d'abandon. Et il suffit de se mettre dans la peau de l'opprimé pour se souvenir que toute foi, toute culture n'a de sens que dans le regard sur l'autre, que dans une culture qui serait le déni de l'altérité n'est plus une culture, ça devient le contraire d'une culture. On utilise sa culture parfois pour le pire. La culture, évidemment, quand on utilise sa culture pour le pire, tout se perd, tout se fossilise, tout devient le contraire, tout
ça
s'inverse.
Fossilise, voilà, c'est le mot. Oui.
Tout s'inverse. En fait, si on exalte sa culture, dans le fond de la pensée et de l'art et de tout ce qu'elle implique d'apprentissage et de connaissance, nécessairement, on arrive à la découverte simple que je suis l'autre. L'autre, et c'est moi. Et que c'est ce qui fonde l'humain sur cette terre.
Hubert Haddad, maintenant, je crois qu'il faut aussi en venir à une question inévitable. Même si elle est dure, difficile, votre vision du conflit israélo-palestinien. Je vous demandais tout à l'heure si cette mise en scène vous avait changé vous-même. Mais est-ce qu'elle a changé ? Est-ce que ce livre, l'écriture de ce livre, a changé votre vision du conflit israélo-palestinien lui-même ? Et Éventuellement, est-ce que vous pouvez dire quelque chose après avoir écrit ce livre, quelque chose en complément à tous ceux nombreux qui œuvrent sur le terrain là-bas pour venir en aide à tous ces gens, y compris ceux qui s'appellent, qu'on appelle les internationaux. L'un de vos personnages les appelle les touristes missionnaires. Ça m'a frappé, cette expression, parce que ces internationaux font quand même plein de choses importantes. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces gens-là ?
Il me semble qu'il y a partout dans le monde et de deux côtés de la ligne verte, de cette horrible ceinture de sécurité, il y a des hommes et des femmes de bonne volonté, hein, qui travaillent pour la paix. Simplement, il faut se défaire de tout manichéisme. On n'est pas dans essentiellement l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'un côté l'Israélien fondé dans un être qui serait atavique et de l'autre le Palestinien qui serait dans... Non, nous sommes dans l'histoire, dans le mouvement de l'histoire. L'identité, au fond, c'est un leurre. On parlait de miroir tout à l'heure. Eh bien, l'identité, c'est deux miroirs face à face avec à l'infini des miroirs, des réfractions qui renvoient la notion d'identité à, finalement, à l'universel ou au néant. Il n'y a pas d'identité. Il y a une culture, une appropriation d'une culture, d'une histoire vécue. Mais nous sommes absolument dans la similarité. L'humain est un seul lieu où des visages différents se manifestent, des cultures différentes se manifestent, mais il n'y a qu'un seul lieu de l'être, un seul lieu de l'humain. Il n'y en a pas des milliers. Et ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'il faut sortir du manichéisme. Ça, c'est essentiel. Ne pas, j'ai parfois l'impression, ici et là, qu'on reste malgré tout dans des conceptions d'exclusion implicites, où on voudrait que celui qu'on désigne comme l'ennemi reste à jamais l'ennemi. Et j'ai entendu des choses qui sont absurdes. On dit, par exemple, que Tsahal serait l'armée la plus lâche du monde. J'ai lu ça dans un... Je ne sais pas dans quel journal. C'est idiot. Toutes les armées, quand elles sont dans l'exaction, quand elles sont dans l'invasion, quand elles sont dans l'oppression, se comportent de façon semblable. Donc, il faut sortir du manichéisme et penser que ces deux peuples vont n'en faire qu'un, au fond. N'en faire qu'un, oui, dans la paix et dans l'échange. Moi, je rêve, avec des amis journalistes, on en parlait, de créer une télévision comme un peu Arte, israélo-palestinienne, où il y aurait en permanence des échanges, des émissions, avec des artistes, des chorégraphes, des peintres, des écrivains, où l'on montrerait la possibilité d'une vie ensemble, d'une vie magnifique, parce que c'est quelle richesse. La culture, on le sait bien, avec Lévi-Strauss, que c'est une multiplication, le rapprochement multiplie les possibilités et ouvre des perspectives splendides. Donc c'est vers ça qu'il faut aller. C'est vers ça qu'il faut aller. Et dès lors qu'on est sur le terrain et qu'on milite, et je comprends parfaitement, moi je milite aussi de mon côté, comme je peux, c'est toujours c'est avec fermeté, mais sans manichéisme. Parce que le manichéisme nous entraîne dans les pires déviances.
Mais ce message, vous l'adressez aussi bien, j'imagine, aux politiques.
Bien sûr.
Aux humanitaires aussi.
Tout le monde. Nous avons tous en nous cette tendance. Il faut faire très attention à cette espèce d'infantilisme qu'il y a en nous, d'immaturité.
Classée.
Voilà, une immaturité morale, de la morale. Pas morale, une immaturité de nos conceptions éthiques qui finissent par devenir parfois dangereuses.
Je ne sais pas si tout est dit, mais il y aura tellement de choses encore à dire. Je crois que ça nous prendrait encore pas mal de temps.
Oui, la seule chose que je peux dire, justement, dans cet esprit, c'est que c'est par le roman que j'ai pu sortir des clichés. Par le roman, la vie, on arrive à faire appel de la vie dans toutes ses nuances, ses subtilités, ses arrière-mondes.
Et la langue de la poésie.
L'auteur se perd dans cette mise en place de l'écriture. Il se perd en tant qu'individu, qu'identité, disons, offensive. Il n'est plus qu'accueil, écoute. Il cherche la justesse.
Eh bien, je vous propose, Hubert Haddad, de terminer cet entretien pour donner envie à nos auditeurs, encore plus envie à nos auditeurs, de lire ce livre, Je vous propose de nous en lire un petit passage. Et je crois que c'est un passage qui parle beaucoup. Je vous en prie.
La tête dépeuplée, une impression de vide dans la poitrine, il marchait au hasard, comme un éviscéré à l'écoute d'une musique funeste montée de tous les carrefours. Des chants arabes s'enlaçaient par bribes autour d'une vibration continue. Les vendeurs ambulants cabotaient entre les façades obscures, sans varier leurs antiennes. Nombreuses, omniprésentes, les voix aiguës des enfants avaient la tonalité exacte des cris aériens d'hirondelles dans un ciel d'été. Entrés la veille à Hébron, des paysans marchandaient leurs légumes sur les places. Quelques voitures privées et les taxis jaunes s'embouteillaient à tous les coins de rue. La foule du secteur H1, femmes voilées en jean ou djellaba, jeunes gens désœuvrés, ouvriers en bleu de chauffe mendiant dans leurs hardes flottantes, circulaient par vagues lentes autour des palmiers et des kiosques. Pâle, le ventre noué, Nessim s'avisa de l'étrangeté des étoffes sur les corps, les visages. Des langes au linceul, la vie humaine avait quelque chose de larvaire, de jaminé dans ses linges, comme si l'air ambiant menaçait de ses oxydations et de ses venins l'épiderme. Il croisait désespérément les regards, en quête d'un signe de reconnaissance. Une apparence de familiarité émanait pourtant des physionomies. Il déambulait parmi des frères et des mères immémoriaux, des enfants nimbés d'ancestralité, d'intimes inconnus aux yeux d'éternité.
Eh bien voilà, merci Hubert Haddad de cette lecture. Merci de cet entretien que je qualifierais d'un entretien hors du commun des entretiens. Merci beaucoup.